Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Le Parlement libanais a voté aujourd'hui la tenue d'élections législatives. Le 27 mars prochain, les Libanais de l'étranger seront autorisés à voter pour les 128 députés de l'hémicycle. Nous y reviendrons avec la journaliste franco-libanaise Randa Takieddine. Israël révoque le statut de résident du militant et avocat franco-palestinien Salah Amouri. Nous écouterons son épouse Elsa Lefort. La fête du Maolid attire énormément de personnes dans les mosquées pour partager la foi dans la joie religieuse. Des mots du recteur de la Grande Mosquée de Paris, Maître Shamseddine Hafiz, sera l'un de nos invités. La police marocaine a saisi 1 tonne et 355 kilos de cocaïne, une saisie à Tanger, dans le nord du pays. Les accompagnants d'élèves en situation de handicap étaient en grève aujourd'hui. Ils dénonçaient notamment la dégradation constante de leurs conditions de travail. La campagne de vaccination contre la grippe est avancée de 4 jours. Dès vendredi prochain, tous les publics qualifiés de prioritaires pourront se faire vacciner. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Pierre Dharréville, député communiste de la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône. Il évoquera les défis qui attendent Marseille après la deuxième visite d'Emmanuel Macron en un mois dans la cité phocéenne. Extrait dans votre édition. Le Parlement libanais a donc voté aujourd'hui la tenue d'élections législatives le 27 mars prochain. Une fois un nouveau Parlement élu, le Premier ministre Najib Mikati gouvernera par intérim jusqu'à ce qu'un nouveau chef du gouvernement reçoive la confiance des parlementaires et soit chargé de former un nouveau cabinet. Les Libanais de l'étranger seront autorisés à voter pour les 128 députés de l'hémicycle. La journaliste franco-libanaise Randa Takieddine.
C'est important parce que La diaspora libanaise est très importante à l'étranger et elle votera en toute indépendance, j'imagine. Et ce sera peut-être un pas positif pour le changement dans le pays. Le pays, la population veut un changement, veut de nouvelles têtes, veut une nouvelle classe politique. Moi, je pense que la classe politique ne peut pas se renouveler sans des élections. Maintenant, qui sont les candidats et comment ça va se faire, c'est une question. Mais le fait que la diaspora libanaise à l'étranger puisse voter est certes quelque chose de positif.
Parce que jusqu'à présent, la diaspora libanaise votait uniquement pour 6 parlementaires.
Oui, dans la région. Donc ça, c'est nouveau dans le fait que la diaspora votera pour les 128 députés. Donc c'est une nouveauté et c'est très bien.
La journaliste franco-libanaise basée à Paris, Randa Takieddine, le ministère israélien de l'Intérieur a annoncé la révocation du statut de résident permanent du militant et avocat franco-palestinien Salah Amouri, une révocation sur la base d'une rupture de loyauté. Cette décision pourrait l'obliger à terme à quitter Israël et à ne plus pouvoir vivre dans les territoires palestiniens. Nous avons joint son épouse Elsa Lefort.
Salah Amouri a été informé que le ministre de la Justice et le procureur général avaient validé la demande effectuée le 30 juin par la ministre de l'Intérieur israélienne, qui est donc de révoquer la carte de résident de Salah Amouri, ce qui veut dire qu'il n'aurait plus du tout le droit de vivre à Jérusalem, d'ailleurs en Cisjordanie. Hein. Ils viennent du coup de signer son expulsion pure et simple de la Palestine.
Vous lancez un appel aujourd'hui aux autorités françaises?
On lance un appel, parce que d'autant plus que depuis le 30 juin, les autorités françaises ont pris position soutenir Salah Amouri. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a eu une procédure contre lui, ils ont toujours souligné qu'ils demandaient que l'ensemble de ses droits soient respectés, c'est-à-dire de pouvoir vivre librement dans sa ville natale, qui est Jérusalem, et également qu'il puisse y vivre en famille avec sa femme et ses enfants. Comme depuis le début, les autorités françaises sont d'accord avec nos revendications légitimes, que Salah puisse vivre dans sa ville natale, on demande que, pas seulement qu'il continue, parce que, a priori, ils ont toujours été dans ce sens-là, hein, mais on voudrait qu'ils obtiennent des résultats, parce que ça peut plus suffire d'avoir ces demandes auprès des autorités israéliennes qui aboutissent toujours par plus de sanctions et plus d'acharnement contre Salah Amouri. C'est bien la preuve que ça manque de conviction politique, ça manque d'investissement de la part de la diplomatie française pour obtenir un résultat concret et pérenne, parce que C'est un acharnement, c'est-à-dire que régulièrement, nous, on sollicite les autorités françaises. On fait pas ça de gaieté de cœur, on fait ça parce que l'acharnement est là, mais on aimerait que cette question soit réglée et que les droits de Salah Hamouri à vivre à Jérusalem soient réglés une bonne fois pour toutes.
Les accusations dont il fait l'objet, lui ont-ils été notifiées? Salah Hamouri est-il officiellement accusé d'être membre du Front Populaire de Libération de la Palestine?
C'est pas pour cela que sa résidence est actuellement enlevée, c'est par défaut d'allégeance, en fait, manque d'allégeance à Israël. Donc au motif qu'il ne ferait pas allégeance à la puissance occupante, il est demandé qu'il ne vive plus à Jérusalem. Dans une de ses prises de position publiques, la ministre Ayelet Shekhed avait justifié le fait de cibler Salah également en disant « on veut aussi dissuader d'autres d'avoir un engagement, donc il est utilisé pour un peu en sorte de modèle pour dissuader d'autres personnes quoi, de s'engager contre l'occupation. »
Pour vous, c'est une mesure d'intimidation?
Oui, bah, comme toutes celles qui l'ont touché depuis maintenant plus de 15 ans, il y a une graduation dans les sanctions, il y a des interrogatoires réguliers, l'impossibilité de déplacer librement, il y a eu des incarcérations, dont certaines fois sans motif, des détentions administratives sans motif, également le fait qu'il m'ait expulsé moi de Jérusalem, contraignant Salah à vivre loin de femmes et enfants. Tous ces moyens sont depuis 15 ans des pressions pour contraindre Salah à quitter la Palestine. Là, on parle de Salah, mais malheureusement, c'est une politique globale qui est menée contre les Palestiniens en général, mais en particulier les Palestiniens de Jérusalem, puisque l'enjeu démographique, la bataille démographique à Jérusalem est d'autant plus importante aux yeux des Israéliens, puisque il y a une intensification de la colonisation à Jérusalem, et tout est fait pour que les Palestiniens de Jérusalem soient de moins en moins nombreux. Salah, il cumule beaucoup de moyens de pression pour qu'ils partent, mais c'est un système global qui touche de nombreuses familles et de nombreux Palestiniens.
Elsa Lefort, l'épouse du militant et avocat franco-palestinien Salah Hamouri. Ce drame en mer Méditerranée, 21 candidats à l'exil restent portés disparus après le naufrage d'une embarcation au large de la Sheba en Tunisie. Les unités de sauvetage ont repêché 4 corps et il y a 7 rescapés. La police marocaine a saisi 1 tonne et 355 kilos de cocaïne, une saisie à Tanger dans le nord du pays. La drogue venait du Brésil. C'est l'une des plus grosses quantités de cocaïne saisies au Maroc ces dernières années. Une enquête est ouverte pour identifier l'ensemble des personnes liées à ce réseau. Ce début de semaine est marqué par la célébration de la fête du Maolid. Elle célèbre la naissance du prophète Mahomet. Entretien avec le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Maître Chamseddine Hafiz.
Maolid al-Nabawi, c'est la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui se célèbre le 12 d'un mois qui s'appelle Rabi' al-Awwal, qui est le troisième mois de l'année musulmane. Et c'est une fête qui n'est pas, je dirais, canonique. C'est une fête qui est plutôt un moment de convivialité qui permet notamment aux enfants de venir à la mosquée et qui est un événement familial où il y a le soir dîner au sein de la famille où on allume des bougies, il y a des chants religieux permettent de célébrer je dirais la naissance du prophète de l'islam. Le prophète a une place particulière dans la religion et dans le cœur de tous les musulmans. Notre envoyé de Dieu, c'est le meilleur des hommes qui a été choisi par Allah. Et à ce titre-là, les musulmans, dans leur ensemble, vouent une adoration et un amour particulier au prophète. Comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas une fête canonique, Elle est là, par exemple, concernant la Grande Mosquée de Paris, nous avons à cette occasion de Mawlid Nabawi, le samedi 23 octobre, nous allons organiser des nashids, donc des chants religieux, qui peuvent permettre à des enfants de se retrouver à la mosquée, et nous allons faire un concours de récitation des hadiths nabawi. Les hadiths sont les dires et gestes et actes, actions du prophète de l'islam. Donc, c'est plutôt une fête des enfants qui permet à tout le monde de se retrouver et bien évidemment, dans de nombreux pays, elle est célébrée et elle attire énormément de personnes qui viennent dans les mosquées pour partager cette joie dans la foi religieuse.
Et sa célébration est controversée dans certains pays.
C'est pour ça que j'ai tenu à dire que ça ne faisait pas partie des fêtes canoniques comme Eid al-Fitr ou Eid al-Adha. D'abord, cette célébration s'effectue d'abord dans la tradition chiite. C'était les Fatimides qui avaient célébré ces anniversaires qui sont notamment liés à celle du quatrième calife à Ali et de son épouse Fatima, qui est la fille du prophète de l'islam. Mais si vous voulez, au niveau du sunnisme, les théologiens des quatre écoles de jurisprudence islamique considèrent que il y a bien évidemment cette célébration, mais d'autres théologiens considèrent que c'est une bida, que c'est une innovation religieuse qui est étrangère à notre religion. Mais comme je le disais tout à l'heure, si nous faisons le distinguo et la séparation, qu'il s'agit d'une simple fête qui n'a absolument rien de canonique, c'est quelque chose qui aujourd'hui fait l'unanimité dans cette pratique, je dirais, de célébration de Mawlid Nabawi.
Et cette fête peut avoir une résonance particulière pour les chrétiens dont la fête de Noël est majeure, la fête de Noël, la naissance du Christ. C'est l'occasion également, cette fête du Mawlid, la naissance du prophète, d'engager un dialogue interreligieux, d'approfondir ce dialogue.
Vous savez que la Grande Mosquée de Paris est très attachée au dialogue avec les autres religions. Récemment, la Fraternité d'Abraham, l'association qui a été constituée en juin 1967 par le recteur Hamza Boubaker, au moment de la guerre des six jours, qui a voulu montrer que musulmans et juifs ne sont jamais en guerre sur le plan religieux avec les catholiques, les protestants, il y a eu donc cette association qui a été créée au siège même de la mosquée de Paris en 1967, et il y a depuis lors d'autres initiatives qui permettent de nous retrouver pour parler des points convergents de nos religions monothéistes, mais en même temps d'aborder souvent des sujets qui peuvent nous diviser, mais sur lesquels nous pouvons de manière paisible parler de ces différences, de ces divergences, pour montrer qu'en tout état de cause, il y a au-dessus de tout cette fraternité humaine qui nous réunit, nous les croyants, et même avec ceux qui ne croient pas, pour faire une société commune.
Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Maître Chemseddine Hafiz. Les accompagnants d'élèves en situation de handicap étaient en grève. Aujourd'hui, ils dénoncent la dégradation constante de leurs conditions de travail et demandent l'obtention du statut de fonctionnaire. La campagne de vaccination contre la grippe est avancée de 4 jours. Dès vendredi prochain, tous les publics qualifiés de prioritaires pourront se faire vacciner. Cela concerne les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes de moins de 65 ans qui souffrent de certaines maladies chroniques, les femmes enceintes et les personnes souffrant d'obésité. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Pierre Daréville, député communiste de la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône. Il évoque notamment les défis qui attendent Marseille après la deuxième visite d'Emmanuel Macron en un mois dans la cité phocéenne. Pierre Daréville.
D'abord, il faut dire que les défis de Marseille sont nombreux et que longtemps, la ville et notamment ses quartiers populaires, les plus populaires, ont été abandonnés par l'État, laissés de côté. En tout cas, l'investissement de l'État pour Marseille et sa population n'a pas été à la hauteur des enjeux, des défis, des besoins de ce qu'est Marseille, c'est-à-dire quand même une capitale méditerranéenne, effectivement, la deuxième ville de France, avec des enjeux considérables. Donc, Guy Hermier, en son temps, quand il était député des quartiers nord de Marseille, demandait déjà, c'était à l'époque, à la fin des années 90, demandait déjà que l'État soit au rendez-vous, et il ne l'était pas, et ça n'a pas beaucoup bougé en 20 ans. Donc, ça, c'est clair qu'il y a besoin d'un investissement de l'État. Après, la question, elle porte effectivement sur la manière dont on s'y prend et puis pourquoi faire, quoi. Pourquoi faire ? Parce que si Marseille est dans cette situation, c'est à la fois à la cause de cette absence, le mot est un peu fort, de l'État, mais aussi à cause des politiques municipales qui ont été menées pendant toutes ces années, des politiques profondément libérales, inégalitaires. On dit Marseille est une ville pauvre. Marseille est une ville inégalitaire, surtout. Il y a de la pauvreté à Marseille, mais il n'y a pas que de la pauvreté. Donc, moi, je crois que le printemps marseillais est en train de remettre un peu les choses à l'endroit de ce point de vue-là, et il a effectivement besoin d'accompagnement.
Pierre Daréville, député communiste de la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône, invité de Pluriel à 19h et 23h, émission présentée par Loïc Barrière. Fin de cette édition. Un très grand merci pour votre fidélité. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.